Alors, nous allons parler là de ce qu'a pu nous dire Jean-Yves Zouan, qui est donc chargé au pôle maire de toutes les thématiques liées à la sécurité. Alors, il est lui à la direction technique au sein de la division aéronautique et est également membre du pôle images et réseaux. Alors, les enjeux, c'est quoi? C'est un certain nombre de menaces terroristes, notamment, avec la volonté américaine d'avoir des exigences au niveau des ports, en particulier en ce qui concerne les conteneurs, d'avoir des exigences particulières qui amènent les Européens à suivre un processus dicté par les Américains pour que les produits puissent parvenir à bon port. Il y a des moyens de pression qui sont relativement forts, qui existent, que ce soit donc sur le trafic commerce pour le suivi ou bien que ce soit sur l'immigration au niveau actuel. La personne chargée de ces affaires là au sein de TUS est Franck Florin, dont il donnera les coordonnées. C'est également la détection des pollutions par satellite ou par photographie pour avoir une vision globale, avec une sécurisation des périmètres maritimes au-delà de la zone ZEE ou de la zone portuaire qui, elle, a des problématiques particulières, notamment en termes de risque Céveso et de satellite. C'est donc l'ensemble de la globalité, satellite, moyen aérien, maritime, système sous-marin. On ne sait pas ce qui peut arriver en faisant la différence entre sécurité et sûreté. La sécurité s'adaptant à la protection des biens et des personnes, donc tout ce qui est lutte contre les accidents, les négligences, puis la sûreté, tout ce qui peut être lié à des réseaux, à des actions en bande, amenant à des dommages de façon délibérée, trafic illégaux d'êtres humains, par exemple. C'est également, ces enjeux sont des enjeux d'observation de problèmes, dont le tsunami, avec l'idée de tapisser le fond des océans, de capteurs pour des actions prédictives. Sur le fond des océans, donc c'est une analyse générale de l'évolution au niveau de la mer, des micro-organismes, du tsunami, des qualités des eaux, des salinités. Ces réseaux de fibres optiques qui existent déjà, en partie en tout cas, permettraient de collecter des informations. Par exemple, au niveau des Canaries, il existe des hauteurs de 30 à 50 mètres avec des risques en matière de tsunami qui sont un peu moins forts en Méditerranée. Alors ces solutions-là, c'est global, c'est-à-dire c'est avant l'alarme et puis ensuite après l'alarme. Même si là on est plus dans le domaine de la sécurité civile, il n'y a pas de solution encore à ce niveau-là. C'est pas facile de trouver des parades, c'est un jeu sans fin. Alors, il faut aussi se méfier de la dictature, de la peur qui peut exister. C'est moi qui le dis. Surveillance de la zone, donc en fonction de la couleur de l'eau qui indique du plancton, du phytoplancton, de l'état de la mer, des pollutions maritimes, de la pêche illégale. Donc en conformité avec des informations satellitaires, le système AIS. C'est un système d'identification des navires à base de plaques d'immatriculation qui permet de la signature électronique. C'est également la question des pollutions avec un officier assermenté pour suivre la trace et en déterminer l'origine. C'est la surveillance du trafic maritime. C'est l'aide à des opérations du style Erika, de naufrage en mer pour retrouver les naufragés. C'est le problème de la drogue et des narcotrafics, de l'immigration clandestine. C'est aussi celui de la zone portuaire pour savoir ce qui s'y passe. On est là clairement dans la thématique de ce pôle. On va du satellitaire au sous-marin. Avec des systèmes sans pilote. Alors, en ce qui concerne le projet ASMAR, la tendance générale, c'est qu'au niveau aérien, surface, sous-marin, une nouvelle génération de plateformes existe, ce qu'on appelle les drones. C'est un peu le système, finalement, d'une approche globale qui a pour objectif la sécurité des organismes et puis des applications au grand public. ASMAR, c'est des AUV, c'est un système capable de surveiller en profondeur, de surveiller de manière autonome, avec suffisamment d'intelligence pour rechercher des objets, avec le pouvoir de discriminer ces objets. Cela comprend des capteurs à grande résolution, des champs d'analyse à chaque niveau, de l'autonomie en diminuant les consommations au niveau des automatismes, au niveau des batteries. Nouvelle génération de batteries, donc gagner sur tous les tableaux. Cette nouvelle génération amène à ce qu'il y ait plus d'intelligence embarquée, ce qui accroît les consommations, qu'il faut donc optimiser. En ce qui concerne les zones de balayage, c'est tout ce qui va le dire. Cela suppose également des bateaux spécialisés pour les mettre à l'eau avec l'adaptation de ces berceaux là, qui les mettraient à l'eau en fonction des conditions de mer, de mettre à l'eau et également de récupérer les engins. Ce sont des caractéristiques puissantes. Hein. Les AUV, il y a un nombre de pays limités qui en a, les USA, le Canada, les pays scandinaves, nordiques, notamment la Norvège. La commercialisation n'a pas encore été faite. Concernant le haut débit extrême, c'est plutôt dévolu aux bateaux de croisière, les bateaux de pêche, pas encore, pour une question de coût. C'est un prolongement maritime en particulier, en optimisant les coûts avec des liaisons satellitaires, une sorte de commutation avec les réseaux terrestres existants, les réseaux Edge, Plus Max, Wi-Fi, en optimisant les liaisons. Alors pas forcément nocturier, c'est un peu l'équivalent de Unique de France Télécom sur Terre. L'optimisation avec des émetteurs WiMAX, par exemple, est une partie du marché. Les croisiéristes, cela les intéresse, notamment par la valorisation économique qu'il peut y en avoir. En ce qui concerne, on est un peu dans le même état de cas de figure que l'aérien. On a de plus en plus de besoins en matière d'information, de transmission d'information. Ce traitement d'information ne pourra pas se faire à des débits extraordinaires, mais on est de l'ordre de quelques dizaines de mégabits. On n'est pas au de 56K, on n'est pas non plus au très haut débit. Alors, ces quelques dizaines de mégabits sont à partager sur l'ensemble des postes. Dans un deuxième temps, on pourrait imaginer ça sur les navires de pêche. Le projet Piranha, c'est un projet de démonstrateur de tête radar avec approche antenne active, avec des composants à bas coût, radar de surveillance entrée de gamme. Les applications civiles sont importantes. C'est le marché des surveillances maritimes qui est ici évoqué. Ça coûterait moins cher, ça serait mis sur des bateaux et ce serait moins coûteux. Alors, il peut y avoir une paranoïa hein, relativement forte en domaine qui dicte un peu le marché. Le travail, ce traitement des informations, a pour objectif la sécurité, la société de surveillance. Pour adresser un nouveau marché et des innovations technologiques, un saut technologique. Progrès, Piranha, ça veut dire progrès, innovation de radar, analogique, numérique. Ça avance très bien, Antenessa en fait partie. Le bon annoncement avec Satimo, qui est plus dans un rapport industriel que financier, est plutôt sympa pour Antenessa. L'échéance, c'est que le démonstrateur doit être terminé pour la fin 2008 pour démontrer la faisabilité de ce nouveau concept, avec des composants pas chers, une architecture pas chère, et puis surtout un travail sur les effets secondaires qui peuvent être des interférences, les parasites. La phase exploratoire de ce projet, on est encore en phase exploratoire, donc il n'a pas été proposé au FUI. Modena, l'idée c'est de développer un système de modélisation d'environnement maritime, modéliser et simuler ce qui. Donc, modéliser et simuler ce que servirait tout capteur optronique de l'UV à l'infrarouge thermique et micro-ondes, donc les radars. Que ces capteurs existent ou non. Au départ, sur des capteurs radars, problème de propagation des ondes, modéliser la mer, modéliser les objets, modéliser le système global. Par exemple, naufragé dans un radeau, selon le type de mer, que peut-on utiliser comme veilleur, pour quel type de, et donc quel type de radar il faut, des radars, banque X, L, C, 10 gigas pour le X, pour le L et pour le C, il faut regarder. Donc avec un spectre de fréquence plutôt fort, avec un traitement d'aspect algorithmique, au niveau du sillage notamment, pour stimuler un radar qui n'existait pas. Et lui définir des propositions. Toutes les briques sont nécessaires pour pouvoir modéliser. Toutes les académiques de la Bretagne y sont, avec une agrégation d'une modélisation globale, avec une approche pluridisciplinaire sur la propagation, la réflexion de la mer, l'état de la mer, avec des ondes radar, sur les propriétés des hydrocarbures, les bulles d'air, les réponses faites au niveau des problèmes physiques. Il faut concevoir de nouveaux systèmes, de nouveaux radars. Alors on est là dans le mécano pour pouvoir adapter à terme des capteurs optroniques pour déterminer l'ensemble des capteurs. Il faut que ce soit fiable pour faire de la simulation. On est là clairement dans le marketing industriel, puisque c'est la simulation en fonction de ce qu'a besoin le client. Donc il y a un comparatif à faire dans des conditions extrêmes pour répondre à l'offre, définir à terme si ce sont des drones, par exemple, c'est la détermination de boules optroniques et de radars avec des capteurs associés à tel autre, le nombre de drones dont ils ont besoin, ses performances, faire des scénarios. Le radar peut-il être évolutif? Bon, à voir. Modèle pour avoir une idée précise en fonction des parasites, des logiciels, qui avec l'intérêt de beaucoup de personnes pour définir l'expression des besoins. C'est un peu comme. Aujourd'hui, avec des PC de 2 gigas, on n'a pas forcément besoin de tout, donc il faut pouvoir déterminer le juste besoin. Il y a beaucoup de connaissances à avoir en la matière pour modéliser la chaîne de radar, l'interface air-mer, moi, disait la houle, les déferlantes, la réfraction, la température. On est dans l'hydrodynamique avec la physique de propagation des ondes, étudier des ondes électromagnétiques. La détection des petits bateaux, par exemple, ne se fait pas forcément très très bien aujourd'hui en la matière. Certains ne sont pas détectés. Les données sont trop imprécises pour être interprétées, donc il faut repousser les limites en conditions ultimes avec une approche multicapteur. Et finalement, Modena, c'est push the limit. Le radar n'est pas omniscient, hein, Galileo Océan peut le permettre. Il existe des avions furtifs, mais qui sont finalement moins repérables et non pas non repérables. Il y a une grande dépendance des systèmes européens aujourd'hui au système américain. Galileo Océan a pour vocation à améliorer cela. À terme, le GPS en 2011-2012 va améliorer ses programmes pour une précision plus grande. Le comportement de ces systèmes vis-à-vis des questions météo en fonction de l'état de la mer, on peut se poser la question de savoir si finalement il n'y aura pas des erreurs avec Galileo Océan, entre les satellites et les capteurs sur place, des erreurs liées au positionnement du récepteur. Alors, la multiconstellation prévue, hein, le système russe ou le système chinois est sous réserve d'ailleurs, on ne sait pas trop s'il va se faire, mais Galileo Océan se fait avec Israël, GPS pour l'instant ça partage, mais il peut y avoir de la brouille dans les signaux. Cette constellation satellite avec des stations au sol a fait l'objet d'un consortium, cependant ce consortium est dans l'obligation de payer l'ensemble de cette constellation. Alors la question que posait Jean-Yves Ouzan, c'est quoi? C'est si c'est stratégique, on y va, si c'est pas stratégique, on n'y va pas, l'échéance est de 2012, donc on est dans le domaine du géopositionnement et des PME qui sont en cours d'acquisition des compétences. Alors il y a d'autres projets qui sont en cours de gestation, hein. Il y a des projets de financement, de R&D, les coûts c'est en millions d'euros que ça se passe. Pour être compétitif, il faut avoir le meilleur positionnement à l'export. Les écoles et les conventions d'accord cadre de partenariat existent. L'implantation dans les autres pays en fonction des pôles, il y a des relations, notamment avec la Grande-Bretagne, des accords de consortium pour en retirer des avantages dans l'idée de l'industrialiser. Même si Théouzan ici dit que l'Union européenne n'a pas forcément aidé beaucoup les projets en question.